Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
À un moment donné, j'ai embauché une personne. Elle m'annonce qu'elle est amoureuse de moi, que nous devons avoir une relation logique pour elle. Je décide de ne pas lui répondre. Quasiment tous les jours, mes véhicules étaient tagués. Et là, j'avais des têtes de mort. J'avais des insultes. J'avais des menaces. Apparemment, elle est érotomane, mais pas que. Il y a un cocktail plus dangereux. Érotomane, bipolaire et schizophrène.
À ce moment-là, il faut commencer par signaler ses faits. Vraiment. Et signaler ses faits, ça ne veut pas dire aller faire une main courante.
Oui. Ça veut dire
mais
quoi,
ça veut dire déposer plainte.
C'est un voisin. Sympa, cordial. Je le croisais régulièrement. Enfin, vraiment, bonjour, au revoir, les simples cordialités de voisinage. Jusqu'à un moment où ça commençait à devenir plus insistant. Et il me dit, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais je n'arrive pas à t'enlever de ma tête. Et après, ça reste, c'est flou. Tout a basculé.
Un voisin, banal, qui avait des vues sur ma fille, qui voulait qu'elle lui appartienne. Il a été rejeté deux fois. La troisième fois, il n'a pas accepté. Il a dit, bon, si elle m'appartient, elle ne m'appartient pas. Elle n'appartiendra à personne d'autre. Donc, il faut qu'elle disparaisse. Sans pitié, sans rien. Puis, il l'a mis sur le lit avec une rose dans les mains et il est parti.
Bonjour à tous et merci de nous retrouver chaque jour, toujours aussi nombreux sur France 2. Ils sont devenus, bien malgré eux, la cible d'un amoureux transi sans que rien ne soit jamais passé entre eux. Un amour fantasmé à sens unique qui a viré à l'obsession à tel point que ce prétendant est conduit en est venu à l'irréparable. Et c'est Marc Gégère, notre avocat pénaliste. Bonjour Marc.
Bonjour.
Qui va nous aider à mieux comprendre ces drames qui ont fait basculer la vie de nos invités. Ce sont encore une fois des témoignages extrêmement forts que nous ne sommes pas prêts d'oublier, qui nous attendent aujourd'hui. Bienvenue à tous. Merci pour votre confiance. Et évidemment, c'est vous que je vais remercier pour votre confiance. Bonjour Anna.
Bonjour Faustine.
Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Faustine.
Et bonjour Christophe. Merci infiniment d'avoir accepté aujourd'hui de libérer publiquement cette parole. C'est une histoire très récente qui vous a touché, Anna. C'est pour cette raison que vous avez choisi aujourd'hui de témoigner, librement, mais avec une certaine appréhension. Pourquoi aujourd'hui accepter de mettre des mots sur ce qui vous est arrivé, Anna ?
C'est très salvateur pour moi. Et si ça peut aider des gens, surtout, à éviter qu'il leur arrive ce qu'il m'est arrivé.
Je suis touchée de vous avoir à nos côtés, puisque vous êtes une miraculée, on peut vraiment dire ça. Oui. Jusqu'où est allé l'homme dont vous allez nous parler dans son délire obsessionnel ?
Jusqu'à me poignarder à mort.
Vous savez pourquoi il en est arrivé à commettre un tel acte ?
Parce que j'ai refusé ses avances sexuelles.
Ça faisait combien de temps que vous le connaissiez, cet homme ?
Ça faisait à peu près 2 ans.
D'accord. Et qui était-il pour vous ?
C'est un voisin qui habitait au 6e étage de mon immeuble. Moi, j'étais au 3e étage.
Ouais.
C'est un voisin très sympa, cordial. Ouais. J'étais maman seule.
Et elle avait quel âge ? C'est une petite fille ?
Avec une petite fille.
Elle avait quel âge ?
Ah ben, je venais de la voir.
Ah oui, vous étiez
elle est
avec
en 2016,
un nourrisson, d'accord.
J'ai fait connaissance avec ce voisin début d'année 2017.
Comment vous aviez fait connaissance au démarrage ? Il était venu se présenter ou ?
Ah ben, en fait, c'est juste que quand j'ai repris le travail, après mon congé maternité, je le croisais régulièrement en bas de chez moi. Oui. Et ayant eu une infection post-accouchement assez lourde, j'avais du mal à me déplacer. Donc, ça m'arrangeait bien d'avoir quelqu'un qui était gentil, qui m'aidait, qui portait ma poussette au 3e étage.
D'accord, c'est ce qu'il faisait au départ, juste vous donner un coup de main.
Oui, il me donnait un coup de main, oui, régulièrement. Enfin, quand on se croisait et qu'il me voyait arriver avec la poussette, soit il m'aidait à prendre la poussette et monter mes courses. Mais en tout cas, il m'aidait.
Il était volubile, il parlait un petit peu avec vous ou au départ, juste, il vous donnait
non,
des petits services
Non, au début, c'était juste,
voisin.
Voilà, enfin, vraiment bonjour, au revoir, les simples cordialités de voisinage. Jusqu'à un moment où ça commençait à devenir plus insistant.
De quelle manière ?
Il toquait plus régulièrement à ma porte, en me ramenant par exemple un croissant ou en me proposant de faire des courses pour moi. Il m'a aussi demandé de l'aide puisqu'il s'exprime mal en français, donc il m'a demandé de l'aide dans une démarche administrative. Et à cette occasion, où il aurait eu besoin d'autre chose, on a échangé nos numéros de téléphone.
D'accord.
Ça ne m'a pas posé de problème.
Puis ça vous permettait de rendre un petit peu tous les services qu'il faisait, oui, bien
exactement,
sûr.
Ouais. Exactement. C'était une façon de le remercier aussi de son aide.
Donc vous étiez allé chez lui ou vous, il était venu chez vous?
Il est venu chez moi.
Pour l'aider à parler.
Alors, pour ses papiers. Et aussi, je l'ai invité à prendre un café, évidemment, chez moi.
Pourquoi vous dites insistant? C'est-à-dire que quand il a commencé à se manifester un peu plus, vous avez ressenti une gêne?
Oui. Oui, je trouvais que ça devenait... C'était trop.
Un peu envahissant.
Trop envahissant. Et puis même, à chaque fois qu'il rentrait chez lui ou qu'il descendait du... on était
au
3
étages plus tard.
C'était devenu une régularité qui toque à ma porte.
Pour dire quoi, comme ça?
Je ne répondais pas. Je ne répondais pas toujours.
Ah, ouais.
Ah bah non. Non, 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 non.
Vous sentiez
que... Je sentis que ça devenait un peu trop. Et donc, du coup, je le répondais de temps en temps, bien entendu.
Mais vous essayez de mettre un peu de distance.
Mais j'ai essayé, parfaitement.
Vous sentiez que vous lui plaisiez, qu'il vous draguait?
Pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté. Non. Pas au départ, en tout cas. J'ai compris bien après. Mais sur le coup, non, non, vraiment. Non,
ça a duré
parce qu'il
combien?
Était tout à fait respectueux. D'accord. Et il se comportait vraiment très bien avec moi comme envers mon enfant.
D'accord. Donc, ça a duré combien de temps, ce moment où vous trouviez qu'il allait un peu loin?
Ça devait être quelques mois avant la première tentative de meurtre qu'il a commise.
La première tentative de meurtre, c'est-à-dire envers vous?
6 mois avant la mienne, une voisine a été aussi poignardée à mort dans mon immeuble.
Elle n'est pas morte?
Elle n'est pas morte, non.
Donc, ça, vous avez dû tomber des nues, parce que c'est impressionnant, un tel fait divers dans son
Et que, immeuble. Donc, cette personne était en tout cas...
visé, était suspect.
Voilà, le principal suspect. Pardonnez-moi, cherchez-moi.
Non, je vous en prie.
Ouais, c'était le principal
suspect. Vous avez dû tomber des nues et avoir un peu peur.
Complètement. Surtout que quelques jours avant cette première tentative de meurtre, il m'avait interpellée en me disant « Oh, ben, c'est mon anniversaire, je suis tout seul, j'ai personne. » Parce que c'était quelqu'un de très solitaire. Hein. Chaque fois que je le voyais, il était tout seul. Donc, je lui ai proposé de venir partager un morceau avec moi en usant une tarte maison.
Et il avait été touché, j'imagine.
Oui, voilà.
Et là, il n'avait pas tenté quelque chose
absolument
de le séduire?
Absolument pas.
Donc, ça doit être assez affolant quand on apprend qu'un homme est lié à
tel crime. J'étais un peu prise de panique. Et il s'avérait que le lendemain, je partais en vacances. Donc, je me suis dit, on verra à mon retour. J'ai eu plus d'informations, en effet, à mon retour, puisque j'ai été convoquée
par la PJ.
Par la police,
ouais. Il avait
venu témoigner puisque j'avais une relation. En tout cas, ce monsieur avait mon numéro et je faisais partie des dernières personnes qu'il avait joint.
D'accord. Voilà. Il a été arrêté, cet homme?
Il a été arrêté. Au départ, non. Il a été en cavale pendant 6 mois.
Ah, d'accord.
Il n'a pas été arrêté tout de suite.
Ok.
Pendant cette période, j'ai reçu pas mal de coups de téléphone.
De lui?
Je ne sais pas. J'ai jamais répondu. Ah. Puisque à partir du moment où j'ai appris la tentative de meurtre, donc le 22 mars même, j'ai plus jamais voulu qu'il rentre en contact avec moi.
Ah, bien sûr.
Donc je ne sais pas si c'est lui qui m'appelait ou pas, mais je le sentais.
Vous aviez peur de le savoir en cavale?
Oui.
Alors qu'il avait tant cherché à rentrer
J'avais
en contact.
J'avais peur, mais à la fois je me disais, il n'y a jamais eu de problème entre nous, tout est très clair, je ne vois pas pourquoi il me voudrait du mal. J'essaie de rester positive en pensant à cela.
Et vous saviez ce qui s'était passé avec elle, au-delà de l'agression physique? Est-ce qu'il y avait eu des heurts, une dispute? Vous saviez pourquoi il avait agressé cette voisine?
Oui, j'avais la raison, oui.
Oui. Qui ne s'apparentait pas à vos relations? Lui aussi,
ça n'avait rien à voir.
Ah, ça n'avait rien à voir, d'accord. Pour savoir si elle aussi l'avait pu
même pas, cette dame.
D'accord, ok.
J'ai peut-être croisé deux fois, elle était récemment arrivée dans l'immeuble.
Ok.
Donc,
à quel moment il est réapparu après ces 6 mois où vous receviez donc des coups de téléphone anonymes?
Parfaitement.
À quel moment il est réapparu?
Il est réapparu une semaine avant mon agression. Ouais. Donc, je venais de déposer mon enfant à l'école. J'étais malade, donc je me rends chez le médecin. Ouais. J'en ressors, j'avais une ordonnance. Donc je vais à la pharmacie. Je me dirige en direction d'une pharmacie à côté de chez moi. Mm-hmm. Un individu m'empoigne le bras avec des lunettes de soleil et une casquette de force. Et il m'oblige à m'accompagner. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu dois être recherché par la police.
Ah, vous l'avez tout de suite reconnu?
Ah oui, oui, bien sûr. Déjà rien que sa voix.
Oui, bien sûr.
Juste la voix, ça m'a suffi à le reconnaître.
Et il fait quoi en vous tenant le bras? Il vous oblige à quoi?
Il m'oblige à m'accompagner.
Dans la pharmacie?
Jusqu'à la pharmacie. Mmh. Donc il y avait peut-être 5 minutes à pied à faire. Donc en m'empoignant très fort. Donc là, j'ai vraiment paniqué.
Il vous a parlé ?
Complètement tétanisé. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux ? Il me réclame mon numéro de portable. Alors je refuse, je lui dis non, je ne peux pas te donner mon numéro, je ne veux pas, tu es recherché par la police, je ne veux pas de contact avec toi. Et en ressortant de la pharmacie, donc il m'attendait dans la pharmacie, bien sûr, derrière moi. C'est vrai que je n'ai pas eu le réflexe d'en parler.
Vous étiez tétanisée.
J'étais dans le...
Tétanisée.
Oui, merci, j'étais complètement tétanisée, c'est le terme.
Oui.
Et dans ces conditions... Vous ne réfléchissez pas, j'étais en pilote automatique, j'ai envie de dire. Et donc j'ai écouté ce qu'il me disait, je l'ai laissé faire jusqu'à un moment, où, donc après la sortie de la pharmacie, je me suis dit, mais je vais lui demander, lui, de me donner son numéro. Comme ça, peut-être qu'il me laissera tranquille. Et donc, il me donne, donc je lui propose de me donner sur un bout de papier son numéro de portable. Et je lui ai dit, comme ça, je me suis dit, il va me lâcher le bras aussi. Il va arrêter de me tenir. Donc, ce qu'il fait... Et là, il me dit, je te donne rendez-vous lundi. J'ai un cadeau pour toi et ta fille. Je te donne rendez-vous lundi matin à 10h. Donc, le lundi 16 septembre.
Il vous parle de sentiments à ce moment-là ? Il vous dit qu'il...
Voilà. Et c'est là où, vraiment, j'ai eu peur. Il me regarde et il me dit, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais je n'arrive pas à t'enlever de ma tête.
Ah, vous avez dû avoir peur. Ouais.
Donc là, Oui. Et il est parti, je tremblais. Je suis allée me réfugier dans un lieu que je connais.
Vous n'êtes pas allée à la police ?
Non, j'avais peur de représailles.
Ah.
C'est pareil, je n'ai pas réfléchi. Et puis, je me suis dit, peut-être qu'il me dit ça, mais après tout, il ne veut pas de mal puisqu'il m'aime bien. Je ne me suis jamais imaginée qu'il pourrait me vouloir du mal, vraiment. Donc non, je n'ai pas eu ce réflexe d'appeler la police. J'ai prévenu une amie de cette chose-là, parce que du coup, ce fameux week-end-là, je suis quasiment restée enfermée tout le week-end avec ma petite, parce que j'avais très peur.
Oui.
Et...
Il ne vous a pas donné de contact avant le fameux rendez-vous du lundi matin ? Entre le moment où il vous tient le bras à la sortie de cette pharmacie,
oui.
où il vous dit rendez-vous lundi matin, et c'est après, vous, cet état de sidération, vous restez cloîtré à la maison.
Plus ou moins.
Et le rendez-vous, il au fameux rendez-vous, il ne vous a pas donné de contact pendant quelques jours ? Il ne s'est pas manifesté ?
Ah non, absolument pas. Et puis, de toute façon, il n'avait a priori plus mon numéro.
D'accord.
Donc,
il savait où vous habitiez.
Mais, bien sûr, puisque c'est un ancien voisin, parfaitement. Donc, j'essayais quand même d'être plus ou moins vigilante. Mais j'étais pas bien.
Il n'a pas rôdé, il n'a pas essayé de venir à côté de la maison ?
Probablement, mais je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, puisque de toute façon, j'ai su quand même qu'il me suivait depuis plusieurs jours. Donc, probablement. Donc, ce fameux lundi, après avoir déposé mes filles à l'école, j'ai appelé une amie, une de mes très bonnes amies, en lui demandant si on pouvait se rejoindre, si je n'avais pas envie d'être seule à ce moment-là.
Bien sûr.
En me disant, si je ne me rends pas au rendez-vous, il va venir sonner chez moi ou il va Donc, je me suis planquée dans un café avec une amie, enfin, dans une impasse où il y a un café, et je lui ai demandé de me ramener chez moi. On a dû rester un peu plus d'une heure ensemble, une heure et demie.
Pour laisser passer l'heure du rendez-vous
Oui, c'est ça, exact. En me disant, bon, maintenant, je ne suis pas venue, je peux rentrer chez moi.
Ouais.
Et je lui ai demandé de me raccompagner, parce que je n'avais pas la confiance
tranquille. Bien sûr, bien sûr.
Donc là, nous sommes le lundi. Le mardi matin, ça sonne chez moi. Je suspecte que ce soit lui, puisque je ne suis pas venue au rendez-vous du lundi.
Ouais.
Donc je me dis, c'est lui. Il vient sonner pour me demander pourquoi je ne suis pas venue. Donc je suis tétanisée, j'attends. Et puis bon, je finis par descendre, puisqu'il fallait que je conduise mon enfant à l'école, à son école maternelle. Et bon, je passe ma journée. Le soir, j'ouvre ma boîte aux lettres, et là, je découvre un DVD pornographique dans la boîte aux lettres. Donc, évidemment, je savais que c'était lui.
Avec une menace ou quelque chose d'écrit ?
Juste un DVD pornographique.
C'est une menace en soi. Hein.
Oui, c'était ce que j'allais dire. Oui.
C'est ce que j'ai supposé. Et puis, surtout que le vendredi, il m'avait plus ou moins dit qu'il était amoureux de moi. Donc,
Ça devient de plus en plus... En fait, c'est un peu en entonnoir. Ça devient de plus en plus précis. Là. Ça devient de plus
Et là, vous n'avez pas, pas eu envie d'aller à la police à ce moment-là ?
Je n'ai pas eu ce réflexe. La peur, j'en sais rien.
Ah, je
la
dis ça sans disant... aucun. Oui, non, mais je dis ça sans aucun jugement.
Vous savez, j'ai tellement regretté, mais ouais, ouais, vous savez pas ce que sur le coup,
savez,
on ne sait pas.
L'état de sidération, c'est pas seulement de ne plus pouvoir bouger, c'est le cerveau qui bouge plus non plus. C'est-à-dire qu'on est en instinct de survie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule chose, c'est survivre.
Oui.
Et on n'a plus du tout la logique rationnelle de se dire ce type est en cavale, il suffit que j'appelle la police, même avant le rendez-vous du lundi, je dis au policier qu'il sera là lundi telle heure et c'est terminé. Mais tout ça, on ne peut pas avoir ce genre de raisonnement parce que vous êtes... En plus, vous aviez une fragilité particulière, vous avez un petit enfant avec une petite fille. Et ça, à partir de là, on ne peut plus raisonner correctement. Quoi. Donc, il ne faut pas vous en vouloir.
j'ai eu très longtemps cette culpabilité, enfin la double culpabilité, comme on l'appelle. Bah, mais encore aujourd'hui, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait, pourquoi je n'ai pas fait ça à ce moment-là.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
J'avais au moins fait une chose. Après la première tentative de meurtre, j'ai contacté les services de la mairie. Ouais. En leur disant que je ne me sentais plus en sécurité après la première tentative de meurtre dans mon immeuble, en tant que mère isolée avec un enfant en bas âge. Voilà, j'avais au moins fait cette démarche, mais la police, non.
Quand est-ce qu'il agit ? La mairie ?
Pas tout de suite.
Oui.
En fait,
c'est très long. Le fait d'être
isolé fait de vous une proie.
J'étais une proie très facile, oui.
Et à ce titre-là, il faut éveiller un petit peu les consciences des personnes qui sont isolées. Et de façon préventive, il faut prendre garde davantage. Et ce genre d'émission-là, justement, est bien faite pour aboutir à ça.
Oui.
Isolé, on doit faire beaucoup plus attention.
Exactement.
Mais c'est facile à dire. Mais dans la situation qui était la vôtre, et vous l'avez bien expliqué, on perd la notion de pas mal de choses. Et Maître en a bien parlé aussi. Oui. Mais on est en péril. Oui. Davantage que quelqu'un d'autre.
Quand est-ce qu'il s'en est pris à vous, alors ?
Alors, donc après l'épisode du mardi, plus rien. Et vendredi matin, comme tous les jours, je me lève, il est 7h. Je pars à 8h15 de chez moi. Puisqu'à cette époque, c'était avant le Covid, on avait le droit de rentrer dans les classes. Donc, c'est les premières semaines de l'école maternelle. C'est un
très
grand passage
récent,
pour ma
2019,
petite.
C'est ça, hein.
2019, septembre 2019.
Ouais.
Donc là, on est le 20 septembre 2019, d'ailleurs. Donc je conduis ma fille à l'école et donc je reste 20 minutes dans la classe avec elle. À 8h40, on doit quitter la classe. Cet après-midi-là, je devais me rendre en province. J'avais un train à prendre pour aller chez ma maman à Lille. Et elle m'avait indiqué il y avait un compost. Je me suis dit, ah bah, c'est très bien, j'avais commencé à faire un peu de compost, mais je ne savais pas où le déposer. Donc, j'étais partie aussi avec mon petit sac de compost. Donc, je n'ai eu qu'une rue à traverser. Et je suis à l'entrée. Je fais quelques pas. Je me dis, bon, je ne sais pas trop où ça peut être. Il n'y avait personne dans le parc. C'était très calme. Si ce n'est les agents municipaux qui soufflent les feuilles dans les parcs. Donc, on entendait juste, souffler les feuilles. Il y a une sorte de local pour tous ces jardiniers et agents municipaux. Donc, je me rapproche du local en me disant, je vais poser la question, ce sera beaucoup plus simple au local. Ils vont savoir me dire où se trouve dans ce jardin le compost. Ça m'évitera d'en faire tout le tour. Et là, j'ai dû faire 10 pas. Je n'étais pas encore proche de la maison. Enfin, j'étais à côté du local, mais je n'étais pas encore passée de l'autre côté de la grille où il y a le local. Et là, cet individu m'interpelle. J'entends donc Anna. Je me retourne, évidemment, à la voix, je sais que c'est lui. Et là, je suis restée de marbre en me disant, mon Dieu, j'ai vu son visage, ses yeux étaient révulsés, ça tournait dans tous les sens. Et j'ai su qu'il allait se passer quelque chose de grave. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais vraiment, enfin, moi, je pense que la police te cherche, tu ne devrais pas être là. Il me répond, la police, je la connais, le commissaire, c'est mon ami. OK. Alors je dis, t'es en colère parce que je suis pas venue au rendez-vous lundi. Alors il me dit oui. Et puis autre chose. Il me dit je voudrais coucher avec toi.
Quelle angoisse.
Je ne savais pas quoi répondre. Bêtement, je réponds mais tu sais très bien que j'ai quelqu'un dans ma vie. Il sait très bien que j'ai personne puisqu'il me suit. Il sait très bien que je m'étais pas remise en tout cas avec quelqu'un puisqu'il me suivait depuis plusieurs jours. Il me dit non, c'est pas vrai. Et après, ça reste, c'est flou. Tout a basculé. Il m'a étranglé avec son bras droit et il m'a poignardé à mort. J'ai reçu 3 ou 4 coups de couteau sur le flanc gauche. Et le dernier ici. J'ai eu beaucoup de chance, puisque au moment où il m'a étranglée, j'ai réussi, je ne sais pas par quel miracle, à appeler au secours. Et là, il y a 3 messieurs qui sont sortis de nulle part. Alors, à ce moment-là, c'était flou. Hein. J'ai vu, mais je ne savais même pas que c'était des agents municipaux. Donc, mon agresseur a pris la fuite. Un des jardiniers a couru après mon agresseur. Je sais que je me suis effondrée. J'ai l'impression que je suis dans le coton.
Vous vous sentiez partir ?
Oui, je me suis sentie partir. C'est comme si, ce jour-là, j'avais un chignon. Et j'avais la sensation qu'on me tirait la tête comme ça en arrière. On me tirait mon chignon. Et j'étais là, si ma tête part, il y avait plein de fourmis dans ma tête. Si je pars en arrière, je meurs. Je me sentais partir, réellement. Sur les 3 jardiniers, il y a un des jardiniers aussi qui m'a mise en PLS. Et j'ai le souvenir qu'il m'a dit, madame, vous perdez beaucoup de sang. Et il me parlait pour me tenir éveillée. Et il a enlevé sa veste de la ville de Paris pour venir compresser. Il a vu que je perdais beaucoup de sang de là. Moi, je voyais que le sang tombait là, mais...
Il a une vraie présence d'esprit. Hein.
Oui.
Votre cœur aurait pu lâcher.
Ils m'ont sauvé la vie. De toute façon, c'est une combinaison de personnes qui m'ont sauvé la vie. Et puis, ils ont prévenu leur chef, qui a appelé les secours. J'ai été transférée dans le camion. Le camion était au pied de l'école de ma fille. J'avais vu sur les fenêtres de sa classe. Et j'ai regardé le médecin. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je n'ai pas fait de testament. Je ne veux pas que ma fille soit orpheline. Donc, il faut que vous me sauviez la vie. Et là, je pars. J'ai rouvert les yeux. Il devait être 9h30. Donc, ça s'est passé entre 8h moins 10 et 9h. J'ai rouvert les yeux, il était 9h30 et j'étais en salle d'opération. Il y avait énormément de monde et je me suis dit, waouh, tout ça pour moi, c'est que ça doit être grave. Entre les chirurgiens cardiaques, pulmonaires, les anesthésistes, les infirmières, enfin, c'était incroyable. Et je suis repartie. Donc j'ai subi ce qu'on appelle une thoracotomie de ressuscitation.
C'est quoi ?
Une éventration totale pour pouvoir ouvrir la cage thoracique et faire tamponnade, comme ils disent médicalement, et opérer tout de suite le cœur. J'ai un point de suture sur l'artère coronaire IVA, la principale menant au cœur. Et voilà.
Vous saviez ce qui vous était arrivé ? On vous a expliqué à ce moment-là ?
J'étais pas du tout en état de comprendre. Non, ouais. Non, je l'ai su qu'à mon réveil. J'ai dû me réveiller vers 22h30.
Et on vous a dit quoi, vous ?
On m'a expliqué que j'avais été victime de tentative de meurtre à l'arme blanche.
Et lui, il était où, en fait ? Il a été interpellé ?
Pas tout de suite. Il a été interpellé qu'un mois après.
Oh !
Donc, j'ai passé 17 jours à l'hôpital, 7 jours en soins intensifs et 10 jours en chirurgie thoracique. Quand on m'a monté en chirurgie thoracique, le premier jour, on m'a fait remarcher. Quand vous êtes allongé et attaché à des machines pendant une semaine, vous n'avez plus marché, en fait. Vous ne tenez plus debout. Donc, avec de l'aide, on m'a obligé à faire les couloirs avec un kiné, quelqu'un qui me tenait, les couloirs de l'hôpital. Et là, le choc, je tombe sur, au niveau du bureau des infirmières, le portrait de mon agresseur.
Ah, il y avait un avis de recherche ?
Il y avait un avis de recherche.
Ah, vous avez compris qu'il était encore libre.
Voilà. Parce que je ne pouvais pas savoir, je ne savais rien du tout à ce moment-là. Et
elle était où, votre fille ? Qui s'en occupait ?
Ma mère, qui est venue d'urgence...
Pour s'occuper d'elle.
S'occuper d'elle, oui. Et ce que j'ai trouvé aussi génial, c'est que, d'ailleurs, pour aller chercher ma fille à l'école le premier jour, c'est mon amie avec qui je m'étais cachée,
d'accord,
justement. Okay. La fameuse amie le lundi précédent de mon agression. Et
il a été arrêté quand ?
Le 15 octobre.
Comment ? Ils l'ont trouvé comment, en fait ?
Parce qu'il me harcelait d'appels.
Ah ouais ?
Ouais. Et un jour, il a volé... alors, j'étais sortie de l'hôpital la veille. Et le 7 octobre, il a volé un portable à la gare de l'Est, en direction de Strasbourg. Hein. Et il m'a appelé avec ce numéro à plusieurs reprises. Donc, comme toujours, je sentais que c'était lui et je ne décrochais pas. Le lendemain de ce 7 octobre, le 8 octobre, je reçois un appel.
Oui.
Donc, je ne réponds pas non plus, que je ne connais pas d'un fixe. Et là, c'est un monsieur qui me laisse un message en me disant, écoutez, on m'a volé mon sac avec mon portable, le sac de ma femme avec mon portable dedans. Vous êtes le dernier numéro qui a été appelé. Donc, il avait dû certainement demander à l'opérateur.
Bien sûr.
Est-ce que vous le connaissez ? Et donc là, j'ai appelé tout de suite le policier qui me suivait depuis ma sortie d'hôpital, qui me tenait au courant de l'enquête, etc. Et c'est comme ça qu'on a réussi à le pister, le borner. Donc, on l'a retrouvé à Strasbourg.
Il a avoué
tous leurs moyens. Et la PJ de Paris est allée à Strasbourg pour l'arrêter. Ça leur tenait à cœur. Et...
Combien de temps après a eu lieu le procès ?
Là, c'est tout récent. C'était en mars de cette année. Donc, 2 ans et demi après pour moi. Et 3 ans pour l'autre victime.
Vous êtes retrouvée en face de lui, hein ?
C'était horrible. C'était horrible. Donc, je suis arrivée complètement tétanisée, encore une fois, comme je ne voulais pas le regarder. Donc, j'ai passé les premiers jours d'audience et de procès de profil, parce qu'il était face à moi dans le box.
Oui. Vous aviez peur de le regarder ?
Je ne voulais pas le regarder. Mais l'autre victime, pareil. Hein, les
vous n'y arriviez pas ?
On pouvait pas. Je ne pouvais pas. Je ne faisais que trembler. J'y arrivais pas. J'ai réussi à l'affronter que le dernier jour.
Il vous a dit quelque chose ?
Non. Il n'a jamais fait d'aveu.
Il n'a jamais fait d'aveu ?
Il n'a jamais fait d'aveu.
Il n'a exprimé aucun regret, rien du tout.
On a les vidéos de caméras surveillance, tout corrobore. On a, par rapport à la victime, on a son ADN. Enfin, non, il a nié en bloc les faits pour moi et pour elle. Il m'a, juste à la fin, il m'a dit qu'il était désolé pour moi. Sans avouer, mais il m'a au moins dit ça. Donc, avec mon avocate m'a dit de prendre ça comme excuse.
Quelle a été sa
peine ? Et tu sais, ils sont 20 ans. 20 ans avec les 2/3 de sûreté, donc 15 ans de sûreté. Et expulsion définitive du territoire français à sa sortie de prison.
Il a fait appel ?
Il a fait appel.
Donc aujourd'hui, la procédure est en cours. Anna a commencé son témoignage en nous disant qu'elle voulait que ça n'arrive à plus personne, qu'elle veut faire de la prévention. À quel moment, encore une fois, sans aucun jugement, parce que j'ai bien compris qu'au départ, les choses étaient vraiment fluides, classiques, une relation de voisinage, mais à quel moment on peut commencer à parler de harcèlement ? Et de quelle manière il faut se manifester ? Quand on sent qu'il y a quelque chose qui est dans le fil de l'histoire chronologique d'Anna, à quel moment aurait-il fallu peut-être se manifester, même si c'est très facile de le faire après ?
Si vous voulez, le principe du harcèlement, quand il est punissable, c'est des agissements répétés qui portent atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de la personne vers qui c'est dirigé. Donc, j'allais dire, à partir du moment où il y a 2 ou 3 appels qu'on peut qualifier de malveillants ou curieux, quelqu'un qui devient trop pressant, c'est-à-dire que quelqu'un... En plus, là, c'était compliqué pour Anna, parce qu'il y a une proximité géographique. Ils sont voisins, on se croise, c'est normal, quelque part. Donc, c'était compliqué pour elle de faire le tri dans son esprit entre ce qui était
la relation
de voisinage classique avec quelqu'un qui est peut-être un peu trop sympathique, et puis un comportement qui aurait pu poser question et l'inquiéter ou l'interpeller. Moi, je pense que, si vous voulez, il ne faut pas hésiter... À partir du moment où le comportement il est inadapté, c'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un « écoute, je n'ai pas envie que tu viennes toquer à ma porte en permanence
et
ou qu'il m'appelle et qu'il continue », à ce moment-là, il faut commencer par signaler ses faits, vraiment. Ouais. Et signaler ses faits, ça ne veut pas dire aller faire une main courante,
ça veut dire
déposer plainte. C'est-à-dire aller voir un médecin, parce qu'en matière de harcèlement, il faut démontrer l'atteinte. Donc, on va voir un médecin qui vous fait un certificat médical qui vous dit que vous êtes dans une situation particulièrement fragilisée parce qu'il y a une personne qui vous ennuie. D'accord. Et avec ce certificat médical, vous allez au commissariat ou à la gendarmerie suivant où vous résidez
et
vous déposez plainte pour harcèlement.
Et là, aujourd'hui, la police, elle entend quelqu'un qui vient en disant « je reçois des téléphones malveillants, j'ai un certificat médical qui dit que je suis sous stress ». La police, qui n'a déjà tellement peu de moyens, va prendre en compte les choses. Ça vaut le coup, pardon, de cette question. Mais...
Si vous voulez, on est en train de vivre actuellement une évolution très importante dans la prise en compte et dans la prise en charge de la parole des victimes, quels que soient les faits.
D'accord.
Parce que, malheureusement, pour ceux qui en ont été victimes, il y a eu des affaires retentissantes qui ont beaucoup défrayé la chronique, qui ont alerté les médias, qui se sont répandues sur les réseaux sociaux. Et il faut le dire aujourd'hui, Faustine... Les réseaux sociaux, c'est un vecteur de modification de notre société. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que les réseaux sociaux s'emparent d'un phénomène et que ça devienne une loi, finalement.
Oui,
vous voyez ? Donc là, il y a vraiment une vraie prise de conscience que la parole de la victime, il faut en tenir
ça
compte.
Ça ne sera pas stérile, a priori.
Parce que ce qui est arrivé à Anna est malheureusement arrivé à d'autres personnes, mais avec une issue totalement fatale. Ce qui fait que, quand on est policier, on est là pour maintenir l'ordre et faire en sorte que les victimes ne soient pas punies. Ou en tout cas, ne soit pas atteinte. Donc, le policier qui reçoit une plainte et qui dit à la dame, mais il vous est rien arrivé, madame, il ne vous a pas tapé, il n'a pas été violent, donc écoutez, ce n'est pas grave, ça va lui passer. Si, a posteriori, il se passe quelque chose sur la personne, il y a une vraie culpabilité de la part des services de police ou de gendarmerie. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que c'est idéal partout, mais en tout cas, il y a une meilleure prise en charge de la parole des victimes.
Jean-Jacques, j'imagine que cette histoire, l'histoire d'Anna, a dû résonner en vous. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce qu'elle vous a raconté, dans ce qu'elle nous a raconté, Jean-Jacques ?
Dans ce qu'Anna a raconté ? Oui. Mais ça me rappelle des choses dans l'histoire, c'est-à-dire que, enfin, moi, la mienne est un petit peu différente parce que c'est quelque chose qui était rapide, que nous n'avons pas remarqué. C'était d'une manière banale. Un voisin qui parlait avec ma fille, qui avait des vues sur ma fille, qui voulait qu'elle lui appartienne. C'est le terme qu'il a utilisé. Il a été rejeté deux fois. La troisième fois, il n'a pas accepté. Il a dit, bon, si elle n'appartient, elle ne m'appartient pas, elle n'appartiendra à personne d'autre, donc il faut qu'elle disparaisse.
Quel âge avait votre fille ?
Pardon ?
Quel âge avait votre fille ?
Elle avait 15 ans, lui en avait 24.
Elle avait 15 ans, elle est décédée alors qu'elle avait 15 ans. Ce voisin d'Alison, oui. Je voudrais qu'on... On ne va pas parler de lui, mais d'abord on va parler d'elle. Quel genre de jeune femme était Alison ? Parce que c'est aussi pour lui rendre hommage que vous êtes là, Jean-Jacques.
Très joviale, très gay.
La voilà, Alison.
Oui, la voilà. Très, très agréable, fonceuse. Oui, c'est le caractère de sa mère. Enfin, soit, fonceuse, travaillait très bien à l'école. Beaucoup d'amis, chef de gang presque. Enfin, voilà quoi. Moi, j'ai rien à dire. On avait que des satisfactions de
elle, quoi. Elle était belle comme un cœur, Alison. Et cette histoire avait vraiment bouleversé l'opinion publique à cette époque.
Oui, beaucoup.
Il y avait eu évidemment beaucoup de reportages dans les journaux télévisés. On va regarder un extrait et on continue à parler d'Alison.
On en parle comme du procès Scream, sans doute à tort. Thierry Jardin avait certes revêtu le costume du film d'horreur Scream pour assassiner Alison Cambier, sa victime, lui portant pas moins de 25 coups de couteau. Thierry Jardin dit avoir mis ce masque pour qu'Alison ne voit pas son visage, pour qu'elle garde de lui le souvenir d'un garçon gentil et attentionné. Pour lui, c'était clair, il l'aimait, elle venait de refuser ses ultimes avances. Si l'idée de la voir avec un autre l'écœurait, la savoir morte, par contre, le soulagerait. Un jeune homme apparemment sans histoire, calme, posé, mais sans un mot pour les parents d'Alison.
Je suis très très surpris par l'absence de sensibilité de l'auteur. L'accusé a été interrogé, il n'a jamais manifesté le moindre regret, le moindre remords, jamais d'émotion, ce qui me semble confirmer un crime de sang-froid absolument épouvantable.
Thierry Jardin a eu une enfance difficile. C'est sa grand-mère qui l'a élevé. Il en a gardé une personnalité fragile qui avait besoin d'être aimée d'Alison. C'est sans doute ce qu'expliqueront ce mardi les experts psychiatres. Ensuite, les autres témoins se succéderont, à commencer par les pères d'Alison et de son assassin.
Et on pense très très fort à Alison aujourd'hui. Hein. Très très fort. On pense très fort à Alison, Jean-Jacques, aujourd'hui.
Excusez-moi. Moi, c'est chaque jour. Moi, j'ai perdu tous mes repères.
Ah, évidemment.
Excusez-moi.
Non, je vous en prie. Juste le temps que vous respiriez un petit peu. Je voyais Anna évidemment bouleversée parce qu'il y a tellement de similitudes avec votre histoire. Elle n'avait que 15 ans. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous voyez ces images ?
J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est...
Vous aviez compris que cet homme était amoureux d'Alison ?
Non. Nous n'avions pas compris au début. Non, c'est le jour qu'il a mis posté une lettre à la maison que mon épouse a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose.
Il y avait quoi dans cette lettre ?
Mais il avait dit qu'il l'aimait, qu'il serait content qu'elle lui appartienne, qu'elle sera avec lui. Voilà. Elle y est allée, elle a frappé à la porte, il est venu ouvrir et il dit « C'est toi qui as écrit ça ?»« Oui, tu sais quel âge que j'ai ?» Moi, j'ai 15 ans, j'ai pas besoin de toi. Il en avait 24. T'as compris ? J'ai pas besoin de toi. Et là, c'était le coup de grâce, quoi. Il avait dit, si elle ne m'appartient pas, elle ne sera à personne d'autre.
Il l'a agressée ce jour-là, le jour où elle a été
non. Dire.
À quelle occasion, alors, elle l'a recroisée ?
Il l'a agressée le 9 novembre parce que quelques jours après, elle avait son anniversaire. Donc, il lui a téléphoné, nous étions à table, en disant, voilà, tu viens parce que tu dois me rapporter le CD.
Le CD de quoi Le CD de quoi, pardon.
Scream.
De Scream. D'où le...
Et en plus, oui, j'ai un cadeau pour ton anniversaire. Donc, il a dû insister, parce qu'elle allait à une soirée de collège. Donc, pour finir, elle s'y rend. Elle n'est jamais revenue. Donc là, il a fait tout son scénario. Voilà, il lui a donné une BD. Et il a dit, attends, j'arrive. Il est parti dans une autre pièce, dans la salle de bain. Il a mis tout le costume de Scream. Il est revenu. Il lui a demandé d'enlever le masque. Parce que là, elle a dit, bon... Et il lui a donné une carte d'anniversaire. Et sur cette carte, il y avait une allumette éteinte. Il avait écrit, tu vois cette allumette, c'est comme toi dans quelques instants. Et là, elle a voulu partir et il l'a poussée sur le lit. Et il a commencé ses 40 coups de couteau. Quoi. Sans pitié, sans rien, en avant. Bon. Voilà, et puis il l'a mis sur le lit avec une rose dans les mains et il est parti. C'est vraiment... je ne sais pas les termes, c'est horrible.
Il n'y en a pas, Jean-Jacques, il n'y en a pas. Qui vous a prévenu de
ce qui est arrivé ? Et puis il est parti chez un ami, où il a expliqué ce qu'il venait de faire.
Et il a tout de suite dit, oui.
Il n'a pas dit tuer, il a déjà agressé. Bon.
Il a eu lieu combien de temps après le procès de cet homme ?
Donc, c'était en 2001. Il a eu lieu en mois de mars 2003.
Il a dit pourquoi il avait fait ça ?
Parce que, voilà. Alors, au début du procès, le président de la Cour d'assises a été très direct. Voilà, vous avez tué pourquoi ? Mais monsieur, parce que je l'aimais. Alors il a dit ceci, monsieur, on ne tue pas par haine, on tue par amour. On ne tue pas par amour, on tue par haine. Moi, pour moi, le procès était terminé. Il l'avait touché où il fallait.
Quelle peine il a eue ?
Perpétuité sans circonstances atténuantes. Mais il a déjà demandé 5 fois d'être libéré. Parce qu'il peut être libéré.
Il n'y a pas de peine de sûreté ?
Non, il n'y a pas eu. Elle est perpétuée.
Excusez-moi, ça fait combien de temps qu'il est détenu là maintenant ? Plus de 15 ans ?
Il y a eu 20 ans au mois de novembre.
Voilà. En fait, si, il y a une peine de sûreté, mais c'est ce qu'on appelle une sûreté administrative. Lorsqu'on est condamné à une réclusion criminelle à perpétuité, c'est 30 ans minimum. Donc la sûreté, c'est la moitié de cette peine. Pendant 15 ans, il ne peut rien demander. À partir de la 15e année, il a dû commencer à faire des demandes.
Je pense que c'est la même loi chez nous.
Oui.
Parce que moi, je vous ai expliqué. Donc, chaque fois qu'il a demandé d'être libéré, nous étions présents. Donc, il y a eu beaucoup de discussions. Ils ont décidé qu'il était encore dangereux, qu'il pouvait recommencer à tout moment. Voilà. Puis, il a eu l'autorisation de sortir 6 fois. Pourquoi ? Avec un psychiatre, dans 6 établissements, voire... Qu'est-ce qui voulait bien le prendre en charge ? Personne n'en veut.
Oui.
Et je dis, et moi, je pose la question, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce qu'à 30 ans, il va sortir. On me dit non.
Alors, oui, ça, je peux essayer de vous expliquer
parce que,
ça.
Parce qu'en Belgique, il y en a au moins 10 qui ne sortiront jamais de prison.
Oui.
Il y a du trou, c'est bien.
Oui.
Mais il y en a 10. Donc, on me dit non. Lui, il reste là, sauf ça du changement. Quel changement ?
Alors... En fait, si vous voulez, effectivement, quand quelqu'un est condamné à une peine à partir du moment où la peine est terminée, il doit être remis en liberté. Sauf que dans certains cas de crimes de sang particulièrement atroces, on considère que la dangerosité de la personne prime finalement sur le fait d'être incarcéré et de purger une peine. Ce qui fait qu'en France, et je pense que c'est la même chose en Belgique, on a la possibilité... Une fois que la peine est expirée, il y a des expertises qui sont confiées à des psychiatres. Et si les psychiatres continuent à confirmer la dangerosité extrême de la personne, il est retenu. Alors on ne dit plus détenu parce que ce n'est pas en purgeant une peine, mais il est retenu. C'est-à-dire qu'on le met quand même à l'écart et on ne le remet pas dans la société compte tenu de sa dangerosité.
Vous avez peur de sa sortie ?
Moi, dans mon esprit, il ne sortira jamais. Je me trompe peut-être, mais il ne sortira jamais.
Comment vous avez trouvé la force d'avancer, vous, Jean-Jacques ?
Que j'ai trouvé la force.
D'avancer.
Mais j'ai arrêté toute activité professionnelle et je me suis lancé dans la défense d'Alison. Donc en créant un tas de choses, des activités et autres, pour sa mémoire. Ça, c'est ma vie.
Vous dédiez votre vie à la mémoire de votre fille.
Ça, c'est ma vie.
Christophe, vous aussi, vous avez été victime d'une obsession amoureuse qui aurait pu mal tourner, même si je sais qu'aujourd'hui, l'histoire doit vous sembler moins lourde. Néanmoins, elle aurait pu aller aussi jusqu'à une issue fatale. Qui était cette femme qui vous a harcelé?
Alors, au départ, une employée. Je suis ostréiculteur dans un petit village du sud de la France, au bord de la Méditerranée, un endroit magique, magnifique. Et à ce titre-là, j'emploie du personnel, et parfois à titre précaire pour les saisons, saison de Noël, saison d'été. Il se trouve qu'à un moment donné, j'ai embauché une personne qui a intégré l'entreprise et à qui on a appris les techniques d'élevage et de tri, de calibrage, d'emballage des huîtres. Et cette personne-là, sur les premiers jours, a semblé s'adapter. S'adapter. Elle était en phase d'apprentissage. Elle n'était pas démonstrative à mon égard de quoi que ce soit, mais elle avait l'air de convenir. Elle avait un certain dynamisme qui faisait qu'elle était appréciée, a priori. Et assez rapidement, c'est-à-dire au bout d'à peine peut-être 2 semaines, j'ai commencé à sentir qu'elle semblait m'apprécier. Et son comportement a évolué. Et presque chaque jour, il y avait une petite attention, un geste, pas encore de suggestion à mon égard.
Quel genre de geste? Quel genre d'attention?
le fait simplement et récurrent de se rapprocher le plus possible de moi, voire de me frôler. Mais tout ça est arrivé...
progressivement.
Est arrivé très, très, très progressivement. Très, très progressivement.
Elle essayait de vous séduire.
Hein. Bah, tout à fait. Tout à fait. Après, ça peut être légitime, c'est son droit.
Oui, bien sûr.
On n'en est pas encore au stade de la suggestion franche, carrée, à laquelle vous devez répondre par oui ou par non. Mais ça finit par arriver. Au bout de là, quelques semaines supplémentaires, j'ai commencé à entendre des propositions complètement directes. C'est-à-dire que, par exemple, on est sur les bateaux, en train de travailler dans les parcs à huîtres et d'ensemencer les parcs à huîtres, et on commence à entendre une phrase un petit peu équivoque comme « alors, on sème ou on sème ?» Des postures petit à petit de plus en plus équivoques, de plus en plus orientées.
Tout le monde le voyait, son petit manège?
Oui. Oui.
Et donc, déjà, vous aviez des témoins. Hein.
C'est devenu, au bout d'un moment, un sujet de discussion avec ses autres collègues, avec le reste.
De plaisanterie ou de discussion?
Les deux.
Et elle y allait franchement? C'est-à-dire qu'elle vous a dit à un moment qu'elle était attirée par vous?
Pas en ces termes-là, non. Pas en ces termes-là. Mais comme j'allais le dire, par des postures.
Oui.
Par des postures, par des
attitudes.
Des vêtements qui laissent entrevoir une partie de son anatomie.
D'accord.
Tout était très suggestif. Hein.
Elle vous plaisait pas du tout, vous, à l'époque?
Non, 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 elle ne me plaisait pas du tout, elle n'avait pas à me plaire. Puis moi, en tant que chef d'entreprise, je dois faire attention à tout ce genre de comportement-là. On sait que ça peut se retourner très facilement contre moi.
Mais vous lui avez dit clairement que vous n'étiez pas intéressé, Christophe?
Non, clairement non. Pas à ce stade-là. Plus tard, oui, évidemment, et avec force, avec vigueur, avec répétition. Mais à ce stade-là, non. Comment on dit, en matière de rugby, je la mettais à 10 mètres.
Oui, c'est ça. D'accord. Vous la maintiez à distance.
Et voilà. Mais au fur et à mesure du temps, son comportement devenait de plus en plus précis, de plus en plus révélateur, de plus en plus chaud. C'est les termes qui conviennent parce que ses attitudes, ses postures faisaient qu'on rentre vraiment là-dedans.
Elle vous envoyait des messages directs sur votre téléphone, par exemple?
Alors non. Tant qu'elle était dans le cadre du travail et pendant la période où elle a travaillé.
Oui, la saison.
Évidemment, elle avait mon numéro de téléphone comme personnel, comme tous mes employés. Mais que ce soit sur le téléphone de l'entreprise qui est en charge de prendre les messages pour les clients, restaurateurs, grossistes ou particuliers, etc., que sur mon téléphone personnel, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de contact à ce moment-là. Ce n'est qu'à partir du moment où elle est partie, puisqu'elle a démissionné à un moment donné, pour occuper un autre emploi ailleurs, parce qu'elle n'avait pas de moyens de locomotion, elle venait travailler à pied, elle avait 5-6 km à faire, ce qui est quand même assez éprouvant.
Vous avez cru que vous étiez sorti d'affaires au moment où elle a démissionné?
Non, sincèrement non, parce que je ne sentais pas le péril, tel que, un peu comme...
Oui, la dangerosité, vous ne la sentiez pas.
On n'imagine jamais de tels scénarios. Ouais. On a le comportement que l'on a, on pense que c'est le bon comportement, mais on n'a pas la lucidité parce qu'on ne peut pas prévoir, prévenir et présager de ce qui va se passer. Mais mon personnel était un peu soulagé lorsqu'elle a annoncé qu'elle démissionnait. Mon personnel était un peu soulagé parce qu'assez rapidement, elle essayait d'écarter les autres employés de leur comportement habituel où il n'y avait pas d'équivoque. Mais il fallait qu'elle soit en permanence la plus proche de moi, voire quasiment collée à moi. Et à ce moment-là, je suppose qu'elle imaginait, parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. Hein. Ouais. Donc il y a beaucoup de suppositions avant d'arriver à des faits. Je suppose qu'elle considérait que toutes les autres employées étaient des rivales
potentielles.
Ouais. À ce moment-là, je ne le percevais pas.
Alors, de quelle manière les choses se sont accélérées après son départ de l'entreprise?
Dès son départ, je reçois un premier message sur le répondeur de mon entreprise où elle m'annonce qu'elle est amoureuse de moi, qu'elle sent qu'elle ne peut pas se passer de moi, que nous devons avoir une relation logique pour elle. Logique, parce que même si je ne le sais pas, je suis amoureux d'elle. Mmh. Mais elle l'est encore plus que moi.
Mmh. Combien de messages elle va vous laisser sur votre...
Des milliers.
Ah, des milliers.
Des milliers. Cette phase de harcèlement a duré quand même 3 ans. Mais quand je dis 3 ans, c'est 3 fois 365. C'est-à-dire que tous les jours, tous les jours, je reçois des SMS, mais des quantités incroyables de SMS. Tous les jours, quasiment tous les jours, je reçois des courriers.
Mais elle vous menaçait dans ces courriers?
Alors, on distingue clairement, très clairement, deux phases. Les deux premières années où le harcèlement, qui est quotidien, qui est jour et qui est nuit, et par tous les moyens, sa présence de temps en temps, physique, des courriers, des appels, des messages téléphoniques, des SMS, ça dure à peu près 2 ans. C'est un harcèlement suggestif, soi-disant amoureux, mais elle-même est persuadée d'être amoureuse, alors qu'en définitive, tel que je le pense, c'est autre chose.
Et vous n'avez pas porté plainte pour harcèlement?
Non, parce que, d'une part, je ne vois pas le danger arriver de cette façon-là. Je ne vois pas la dangerosité. Parce qu'à chaque fois, en tout cas pour ce qui nous concerne, madame et moi, on manque peut-être de lucidité. Et à chaque fois, on pense bien agir. On ne pense pas que ça va qu'une attaque, qu'une agression va nous arriver. Donc, je ne porte plainte. Je ne porte pas plainte. Et tout de suite, je décide de ne pas lui répondre. Je ne réponds pas à ses appels, je ne réponds pas à ses SMS, je ne réponds pas à ses lettres.
Elle s'en est prise à vous physiquement?
Alors, sur la deuxième phase, oui. Ouais. Mais avant de s'en prendre à moi, elle s'en est prise à mon amoureuse du moment. Parce que par instant, elle était persuadée que nous étions mariés. C'est-à-dire pas mon amoureuse et moi.
Délire.
Mais elle, cette personne-là qui avait bossé avec moi.
Érotomane,
érotomanie.
Érotomanie, on l'a su évidemment bien après. À plusieurs reprises, elle s'en prendra à moi, mais elle a commencé par... Au début, s'en prendre à mon amoureuse. Elle a menacé par des dégradations et des tags sur son entreprise, par une agression physique dans un magasin, en l'inculpant presque d'être la garce qui
lui
prend
vole
sa place.
Son mari.
Ah oui, qui lui vole son mari. Ouais.
Qui vole son mari.
C'est complètement un délire.
Tout à fait. À mon égard, elle s'en est prise à moi aussi parce que je ne sais plus quel était le motif. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais en train de manger dans un petit restaurant, mon plat du jour, comme à chaque reprise,
comme
à chaque midi. Et affairé en train de découper mon plat, j'entends crier. Nous étions en plein été. Donc, toutes les terrasses des restaurants au bord de la mer
sont bondées.
Remplies, bondées. Une belle journée, j'entends crier, je lève la tête et là, je vois cette personne-là courir avec moi, le poing levé, en m'insultant, et je ne sais pas ce que je lui avais fait. Pourtant, je ne répondais jamais, donc c'était dans son imaginaire probablement que je la refusais, ou que je l'avais trompée, etc. Tout ça a asséné avec des insultes, évidemment. Et elle arrive en courant, le poing levé sur moi, alors que je suis assis en train de manger, voilà, et elle arrive, c'est vraiment une agression.
Oui, c'est impressionnant.
Ça se passe en quelques secondes.
Oui, mais c'est très impressionnant.
En 2-3 secondes. Et donc, elle se jette sur moi, je l'esquive. Je sais esquiver parce que j'ai pratiqué la boxe pendant longtemps, puis le rugby. Ce sont des sports d'affrontement, mais aussi d'évitement. Je l'esquive et évidemment, je me sens agressé. Je dois résoudre en quelques fractions de secondes la situation. Je me lève, je la soulève, je la remets à sa place. Et là, elle lève à nouveau le poing sur moi. Je lui saisis le poing, je la retourne et je lui donne un grand coup de pied dans l'une de ses fesses. Voilà la situation. Elle crie, évidemment, elle continue à crier. Oui. Tous les gens se soulèvent. Certains m'insultent.
Alors, ah oui, forcément.
Je suis la victime. Dépôt de plainte qui est enregistré avec, évidemment, la fourniture de tous les éléments possibles, mm-hmm. les documents écrits, les lettres, les SM, une bonne partie des SMS, parce qu'il y avait, je crois, 1400 SMS, quelque chose comme ça, ce qui est rien sur trois ans, on pourrait dire, mais quand même, c'est constant. En tout cas, c'est ce que j'avais pu sauvegarder. Et un premier dépôt de plainte qui n'aboutit à rien, c'est-à-dire que les gendarmes étaient débordés, avaient des affaires qui semblaient, je veux bien le croire, pour ce cas-là, à ce moment-là, parce que la fin n'est pas tragique, donc on perçoit d'une façon différente. Ils avaient des affaires plus importantes certainement à gérer et on en reste là.
Cette fin tragique dont vous avez parlé, qui aurait pu vraiment mal tourner, c'est en février 2011. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Février 2011, une nuit ordinaire, qui était devenue ordinaire pour ma compagne et pour moi-même. C'est-à-dire que toutes les nuits, à peu près dans la même tranche horaire, entre minuit et demi et 3 heures du matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Où j'avais le signalement de plusieurs, en principe jamais un, mais plusieurs SMS successifs. Et le téléphone sonne, comme d'habitude, ressonne. Ça a été 10, 11, 12. Celui qui est affiché habituellement, c'était un numéro à 4 chiffres. Tandis que là, c'était un 06. Donc, j'ai décroché le téléphone et là, je dis oui. Christophe, c'est les pompiers. C'est les pompiers, il y a ta cabane à huîtres qui est en train de brûler. Ma cabane à huîtres était jolie, belle, accueillante, tout ça. Et d'un seul coup, je me suis... on voit des images, quoi. Hein. Ma compagne m'entend répondre, elle s'affole, elle bondit. Vite. Regardez cet endroit merveilleux. Et vite, dépêchons-nous, appelle ton fils, j'appelle mon fils. Elle était en panique. Et immédiatement, je l'ai apaisée, assez facilement. Je lui ai dit, écoute, ça brûle, il y a les pompiers, il y a les gendarmes. Probablement. Puis on n'y fera rien, nous-mêmes, on y va, mais on ne va pas plus vite sur la route. Nous arrivons sur le site, en effet, c'était en train d'en brûler. Il y avait 4 à 5 camions de pompiers, toutes les lances étaient en œuvre. Nous avons fait les premiers constats avec la gendarmerie. Je leur ai soumis le nom de la personne qui, à mon avis, était possiblement l'auteur de l'incendie. Un peu plus tard, dans la même journée, puisqu'il était quoi, 3h, 4h du matin, donc un peu plus tard, je vais déposer une plainte. C'est vrai que c'est difficile de retrouver le sommeil hein, immédiatement, ah ouais. c'est impossible en principe. Un dépôt de plainte, et là on me demande si, évidemment, si je pense à une personne en particulier. Donc oui, je nomme cette personne-là, je réitère que j'avais déposé 2-3 plaintes juste précédemment, quoi, hein, dans le mois qui a précédé l'incendie. Et voilà. Et on attaque la démolition de la partie incendiée.
Oui.
Ça aurait pu être catastrophique, beaucoup plus que ça l'a été d'ailleurs. J'ai eu de la chance, parce qu'elle a mis le feu cette nuit-là avec un bidon d'essence d'environ 5 litres, du papier journal, mais elle a déposé tout ça sous une porte coupe-feu. Je ne savais même pas que cette porte était coupe-feu. Et ça a retardé. Ça a retardé l'incendie, ça l'a réduit. Quelqu'un est passé, a vu qu'il y avait un incendie, a appelé les pompiers. Mmh. Eux sont intervenus rapidement, par chance, ça aussi.
Elle a été jugée, cette femme ?
Alors, elle a été jugée, oui, bien sûr, elle a été jugée, parce qu'avant d'en arriver là, au bout de 2 jours, il ne s'était rien passé, en tout cas à ma connaissance, et toujours rien passé, du côté de la gendarmerie. Et... toujours au même endroit, l'endroit où j'avais l'habitude de manger mon plat du jour, le chef vient me prévenir. Écoute, elle est encore sur ton pick-up, elle est encore en train d'écrire quelque chose sur ton pick-up. Parce qu'il faut savoir que dans la dernière phase, c'est-à-dire la dernière année, et un petit peu avant, quasiment tous les jours, mes véhicules étaient
tagués.
Alors quand elle était dans une phase, entre parenthèses, amoureuse, j'insiste bien là-dessus parce que c'est autre chose à mon avis, elle, avec sa salive, elle dessinait des cœurs. Elle décidait un organe génital masculin, parce que ce n'était pas que l'impression d'avoir des sentiments, elle avait une attirance sexuelle qu'elle voulait démontrer. Et lorsqu'elle était dans une phase agressive, négative, c'est-à-dire toute la partie de la dernière année, c'était avec des excréments de chien. Et là, j'avais des têtes de mort, j'avais des insultes, j'avais des menaces. J'ai même pas pensé à prendre des photos. Parfois, voilà, on parle de lucidité. Parfois, on n'a pas la lucidité parce qu'on se dit que ça va passer, parce qu'on est naïf aussi.
Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé sur elle pendant ce procès ?
Alors, le diagnostic a été posé, oui, en effet, assez rapidement, parce que moi, au gendarme, lorsqu'elle a été interpellée, après avoir pour une dernière fois dégradé mon véhicule, et là, nous nous sommes affrontés physiquement, et lorsqu'elle a voulu lever la main sur moi, là, j'ai eu asséné un gros coup de poing. Son portable a jailli. J'ai récupéré son portable. Je me suis dit, là, j'ai les pièces en conviction. Je suis allé déposer le téléphone à la gendarmerie, un petit peu fier, en me disant, bon, ça y est, on tient l'issue. Tout est terminé à partir de ce moment-là, parce qu'on a... On a vraiment les preuves. Les gendarmes ont essayé de faire parler les opérateurs. Tout le monde n'était pas si au point qu'aujourd'hui. Il a été impossible de remonter jusqu'à elle. Mais moi, j'étais persuadé à ce moment-là. Vous avez donc déposé une plainte pour agression, tentative d'agression. Elle est allée une heure plus tard, déposer à son tour une plainte. Et là, elle est tombée sur un gendarme plus impliqué, plus disponible aussi, probablement, et plus sensibilisé, parce que quand même, il y avait eu un incendie, un grand péril. Il y a eu la presse locale qui s'en était mêlée. Donc tout ça, ça fait un petit peu parler du coin, des personnes impliquées. Et elle a tout avoué spontanément. Spontanément, elle a tout
avoué. Et elle a été diagnostiquée, érotomane ?
Alors moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait une expertise. Et l'expertise révèle que, apparemment, elle est érotomane, mais pas que. Il y a un cocktail plus dangereux. Érotomane, bipolaire et schizophrène.
Ah oui, et on a bien compris à quel point ça a laissé chez vous des traces absolument indélébiles. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois, de nous avoir fait confiance. On pense encore une fois très fort à Alison aujourd'hui. Merci. Merci, Christophe. Merci, Marc, de nous avoir accompagnés. Merci à vous pour votre fidélité. Restez sur France 2. On se retrouve dans un instant. Et vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur les plateformes France.tv. Je vous embrasse.
Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez été victime d'un viol et vous vous êtes retrouvée enceinte à la suite de cette agression. Face à ce traumatisme, vous avez décidé d'interrompre votre grossesse ou, à l'inverse, vous n'avez pas pu avoir recours à une IVG. Vous avez toujours dit la vérité à votre enfant sur ses origines et ce viol dont vous aviez été victime. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
C'est la première fois que j'ai un visage découvert. Et je pense que c'est salvateur, c'est très salvateur pour moi.
Ça rappelle des choses que j'ai dites et qui ont été difficiles à dire.
Et j'espère que l'auteur des troubles que j'ai subis est aujourd'hui dans un état beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein.
Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.